Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion.
Aujourd'hui, nous abordons la question de l'épuisement professionnel et plus précisément du burn-out féminin. C'est à lire dans Far West, un média qui raconte le Sud-Ouest à travers des reportages et du documentaire. Burn-out, les femmes au bûcher, c'est le titre de votre article. Bonjour Gabriel Taïeb.
Bonjour Juliette.
Vous êtes journaliste, vous écrivez souvent pour Far West et vous faites partie de l'équipe de Podcasting. Dans votre article, vous vous intéressez, on l'a dit, à la manière dont les femmes vivent le burn-out. Elles semblent plus touchées que les hommes par le phénomène. Alors, avant d'entrer dans le détail, pouvez-vous rappeler ce qu'est le syndrome d'épuisement professionnel ?
Oui, alors la définition de burn-out, justement, est sujet à débat. Puisque le terme en fait est apparu dans les années 60, d'abord pas dans les sphères scientifiques, et c'est dans les années 70 qu'un psychologue américain, Herbert Fronderberger, a défini dans ses écrits le burn-out comme, donc on parle en français d'un syndrome d'épuisement professionnel. Ça recoupe un épuisement émotionnel, un épuisement psychique et un épuisement physique lié donc à des conséquences professionnelles. L'OMS ne définit pas le burn-out comme une maladie, mais comme un phénomène lié au travail et a pu distinguer en fait trois éléments qui caractérisent le burn-out. Un sentiment d'épuisement, du cynisme ou des sentiments négativistes liés à son travail et une efficacité professionnelle réduite. Mais derrière ça, beaucoup d'acteurs et beaucoup d'associations qui militent pour une meilleure reconnaissance du burn-out critiquent justement cette définition comme étant soit trop vaste ou en tout cas ne recoupant pas assez d'éléments permettant de bien identifier le burn-out dans les sphères professionnelles et sa reconnaissance ensuite par les organismes de santé.
Sa reconnaissance comme maladie professionnelle n'a rien d'évident, c'est ça ?
Tout à fait, mais ça a été reconnu en mai 2019 par l'OMS comme un phénomène lié au travail. Ça a tout de même cette utilité, on va dire, pour les personnes qui militent pour la reconnaissance du burn-out, de permettre une meilleure prise en charge, notamment par la sécurité sociale. Ça permet aussi aux organismes professionnels de mieux lutter contre les apparitions de burn-out. Mais en refusant la reconnaissance en tant que maladie professionnelle, évidemment, ça ne facilite pas les démarches pour les personnes qui souhaiteraient faire reconnaître leur épuisement professionnel dans leur organisation.
Vous avez choisi d'attaquer ce sujet par le prisme des femmes. Comment avez-vous découvert que ce phénomène touchait plus les femmes que les hommes ? Est-ce qu'il y a des chiffres, des statistiques ?
Alors, les chiffres sont difficiles d'accès, on va dire, puisque entre les organismes privés et les organismes publics, il y a une très très grande différence, un très grand écart par rapport aux personnes reconnues comme en situation à risque ou en situation de burn-out. Pour donner une idée, les organismes privés vont plus sur plusieurs millions de personnes, alors que, par exemple, Santé publique France parle de quelques dizaines de milliers. Ce qui m'a porté vers le sujet via le prisme féminin, c'est d'abord une rencontre avec Anne-Sophie Vives, qui est la créatrice du collectif Les Burnettes, qui s'est transformée ensuite en l'association Elle Burn, qui elle-même, après son propre burn-out, a fait une reconversion professionnelle pour se tourner donc vers l'accompagnement des femmes victimes de burn-out, puisqu'on constate que, quels que soient les chiffres, en effet, les femmes sont bien plus victimes du burn-out que les hommes.
To chase anymore.
Pour écrire votre article, vous avez rencontré l'association Elle Burn. Quel est son but? Que fait-elle pour aider les femmes victimes de burn-out?
Alors l'association est encore assez récente. Elle est née il y a 2 ans maintenant. Disons qu'elle découle d'abord du collectif Les Burnettes, qui était un groupe Facebook, un groupe d'entraide pour parler du burn-out, pour échanger ses expériences. Et pour crever un petit peu l'abcès aussi, puisque évidemment, quand on parle d'épuisement professionnel, il y a beaucoup de honte personnelle, en fait, ressentie par les personnes victimes, puisqu'il y a un petit peu cette idée que c'est de sa faute, en fait, si on a subi un épuisement professionnel. Ce collectif, donc, a d'abord permis de libérer une certaine parole, de montrer que c'est normal, parfois, dans un parcours professionnel, de se poser des questions, d'être épuisé, de vouloir se reconvertir, d'être dans un environnement qui parfois peut être toxique aussi. Et petit à petit, ce collectif a grandi et a cherché à accompagner en fait ses victimes, puisque Anne-Sophie Vives, suite à son propre burn-out, a pu constater le manque d'accompagnement et le manque d'outils pour réussir soit sa conversion professionnelle, soit à adopter une meilleure posture dans son organisme professionnel pour mieux vivre son retour dans l'entreprise.
Et vous l'avez évoqué, la fondatrice Anne-Sophie Vives a elle-même fait face à un épuisement professionnel. Quel est son parcours ?
Anne-Sophie était notaire assistant depuis une dizaine d'années, et elle parle un petit peu toujours de son expérience comme étant d'une explosion en plein vol, en fait. C'était quelqu'un qui travaillait énormément, qui avait évidemment beaucoup de contraintes dans un domaine qui peut être très stressant, et qui surtout s'imposait une pression immense pour pouvoir tout faire, pour pouvoir être la plus performante possible. Et c'est justement ce qui a amené, il y a 2 ans, à son burn-out. Donc ça s'est manifesté par une perte de la mémoire immédiate, par une vraie tétanie, une tétanie physique, une attaque de panique en fait. Donc elle a souvent ces mots en disant elle est passée du jour au lendemain de superwoman à super loseuse. Et c'est ce qui revient souvent en fait dans les témoignages de burn-out. Ce ne sont pas des personnes qui n'arrivent pas à gérer une trop grosse charge de travail, ce sont au contraire des personnes qui, à force d'accumuler cette charge de travail, à force de travailler tous les soirs, de ne pas prendre de repos, de se dire à minuit c'est normal de répondre à ses mails, je peux toujours me dépasser, je peux toujours travailler, au bout d'un moment il y a ce point de rupture qui vraiment détruit sur le coup les individus victimes de burn-out. Mais évidemment après il y a tout un processus de reconstruction qui s'enclenche.
Et concrètement, que propose l'association pour aider les femmes qui vivent un épuisement professionnel ?
À cause du manque de définition claire, à cause du manque d'accompagnement, à cause de la reconnaissance, de la non-reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, souvent les personnes victimes passent donc en congé maladie, prennent le temps de la réflexion, prennent le temps du repos, mais souvent refont des burn-out à répétition une fois qu'elles retournent dans leur milieu professionnel, puisque le problème en amont n'est pas réglé. Ce que c'est proposé de faire, et ce que fait d'ailleurs l'association Elle Burn, c'est justement trouver des méthodes, trouver des outils pour aller vers une meilleure prise en charge et une meilleure reconversion. Et ça passe par des ateliers de parole, ça passe par des rencontres, ça passe par une meilleure pédagogie aussi par rapport au burn-out et aux sphères que ça touche. Puisque rien que le fait d'en parler, le fait de dire que c'est normal de ressentir tout ça, c'est normal de vivre tout ça, et c'est aussi normal de penser à sa reconversion, de se dire peut-être que le milieu professionnel ou la profession n'est pas adapté, ça permet aussi aux individus de mieux vivre en fait leur travail et leur avenir.
Donc dans votre article que les femmes sont plus touchées par le burn-out que les hommes. Est-ce qu'il y a des pistes pour expliquer ce phénomène ?
Il y a des pistes même très explorées. Tout d'abord, Dans mon article, j'ai pu faire la rencontre de Lise Lenin, qui est psychologue du travail, et qui explique bien qu'il faut aussi déculpabiliser les individus, puisque le burn-out ne doit pas être perçu comme une incapacité des individus à gérer le travail. Souvent, le burn-out est aussi le résultat d'un environnement professionnel psychopathogène. Ce qui peut expliquer que les femmes soient plus touchées, nous dit toujours Lise Lenin et l'association Hellburn, c'est tout d'abord, en fait, les femmes parlent plus facilement, déjà, de l'épuisement professionnel. Elles ont plus de facilité, justement, à échanger sur ces termes-là. Alors que ce qu'on peut constater, c'est que les hommes, en général, prennent plus sur eux jusqu'au point de rupture. Donc ça, c'est un des facteurs. Mais au-delà de ça, les femmes occupent plus souvent des postes dits intermédiaires. Donc c'est des postes qui ont été très répandus, qui se sont ouverts beaucoup ces dernières années, pour justement permettre aux femmes une meilleure parité dans les postes dits à haut niveau. Sauf que souvent, ces postes intermédiaires, c'est ce qui fait la liaison entre des salariés réguliers et les cadres. Et donc, elles se trouvent dans une position d'étau où elles n'ont pas beaucoup de latitude d'action et en même temps, elles ont beaucoup de responsabilités, ce qui les place dans un entre-deux qui ajoute une pression énorme et surtout fait une perte de sens par rapport à leur profession. Au-delà de ça, évidemment, il y a l'organisation patriarcale et assez sexiste de beaucoup d'organisations professionnelles qui fait qu'une femme doit fournir beaucoup plus d'efforts pour être reconnue dans son travail et donc s'impose aussi cette pression par elle-même du fait de la société et des exigences professionnelles de se dire pour arriver au même salaire que les hommes, pour arriver au même poste que les hommes, pour être reconnu comme un homme, je dois fournir bien plus d'efforts. Et ce qui encourage souvent cette pression personnelle à surperformer jusqu'au point de rupture.
Et le burn-out peut être lié aussi à la charge mentale qui touche plus les femmes, c'est ça ?
On parle du burn-out comme un épuisement professionnel et ne touchant qu'au domaine professionnel dans sa reconnaissance. Et il faut bien situer que le burn-out, c'est une difficulté à allier son travail avec ses autres sphères de vie. Et les femmes, évidemment, par cette charge mentale beaucoup plus importante que les hommes, sont beaucoup plus sujettes à être victimes de burn-out, puisqu'elles ont d'autres contraintes personnelles qui vont évidemment influer sur leur capacité de travail et la charge mentale qui leur est imposée.
À l'époque où vous avez écrit l'article, la fondatrice de l'association Hellburn disait avoir d'autres projets. Où en est-elle aujourd'hui ?
Alors, tout d'abord, évidemment, l'année 2020 a été marquée par la pandémie, qui n'a pas été sans conséquences sur les psychopathologies au travail, sur le burn-out, sur la recherche de sens pour cette association et pour les professionnels en général. Donc l'association Hellburn a été très sollicitée en 2020, a fait beaucoup d'interventions dans les organisations et a accompagné vraiment beaucoup de personnes en 2020 par rapport à ces actions. L'association a reçu une aide européenne qui va permettre à cette association de recruter son premier salarié en la personne d'Anne-Sophie Vives, qui va donc passer de présidente de l'association à salariée. Et l'objectif pour Hellburn, c'est vraiment à la fois de monter ce fameux local pluridisciplinaire qui pourrait accueillir les personnes du moment de leur burn-out jusqu'à leur reconversion professionnelle saine. Quand je parle de reconversion, ça peut être autant un changement de métier, un changement de branche, comme réintégrer une même structure, mais de façon plus saine. Et tout l'objectif de Hellburn, c'est aussi de sensibiliser sur une meilleure reconnaissance du burn-out, de l'épuisement professionnel, faire de la pédagogie dans les organisations et au final être un acteur majeur pour accompagner les personnes aujourd'hui en perte de repères suite à un burn-out ou en tout cas les prémices d'un épuisement professionnel.
Merci Gabriel Taïeb, votre article « Burnout, les femmes au bûcher » est à retrouver sur le site internet de Far West.
Merci Juliette Chénion, c'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feignet, Mathilde Leuil et Marion Ruot, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.